Bienvenue sur le podcast Portrait de génie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du musicien Wolfgang Amadeus Mozart. Alors, s'il y a bien un musicien qui est synonyme de génie et de virtuosité, c'est bien lui. Donc, cette capsule est importante pour moi parce que c'est un de mes musiciens préférés. Je vais tenter en quelques minutes de tracer le portrait de ce génie absolu de la musique. Si la capsule vous plaît, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire des commentaires si vous avez envie de discuter du génie de Mozart. Donc Wolfgang Amadeus Mozart ou Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg et est mort le 5 décembre 1791 à Vienne, donc en Autriche. Et c'est un compositeur de la période classique. Son père s'appelle Léopold Mozart, il est un musicien de la cour du prince-archevêque de Salzbourg, et sa mère s'appelle Anna Maria Pertl, elle est la fille d'un fonctionnaire de la cour de Salzbourg. Il est le cadet de 7 enfants, dont 3 sont morts en bas âge, et 2 autres pendant l'enfance. Alors dès le plus jeune âge, c'est un garçon émotif et tendre, il révèle des dons prodigieux pour la musique, il a l'oreille absolue et également une mémoire photographique. Son père lui apprend le clavecin dès sa 5e année. Il apprendra par la suite le violon, l'orgue et également la composition. Dès l'âge de 6 ans, il part en tournée faire un périple musical avec son père et sa sœur aînée Maria Anna, qu'il appelle Nannerle. Ils vont d'abord à Munich, à Vienne, avant de s'engager le 9 juin 1763 dans une longue tournée en Europe qui les emmène à Munich, à Francfort, à Bruxelles, à Paris, Versailles, Londres, La Haye, Amsterdam, Dijon, Lyon, Genève et également Lausanne. Donc ces tournées sont un véritable succès auprès des cours et des différents souverains de l'Europe. Lors de ce périple, il rencontre à Londres Johann Christian Bach, le fils cadet de Jean-Sébastien Bach, qui lui fait découvrir le pianoforte et également l'opéra italien. Il lui apprend également à construire une symphonie. Vous imaginez à quel point cet apprentissage va être crucial pour l'avenir. Avant l'âge de 10 ans, il a déjà composé 16 sonates pour violon et clavier, 11 symphonies, et en 1767, à l'âge de 11 ans, un premier opéra, Apollo et Hyacinthus. Entre 1770 et 1773, il effectuera 3 voyages successifs en Italie avec son père. Il découvrira donc Rome ainsi que l'opéra italien dans toute sa splendeur. Il étudiera ce genre dans lequel il excellera. En 1772, l'avènement d'un nouveau prince archevêque le met dans une posture difficile avec différentes contraintes. Ce dernier prince est entiché de musique italienne et bien décidé à mettre au pas les Mozart père et fils qu'il trouve arrogants et trop souvent absents. Mozart réagira à cette situation par une créativité surabondante. C'est à cette même période qu'il fait la connaissance à Vienne de son illustre aîné Joseph Haydn. Entretiendra avec lui une grande amitié teintée d'admiration. Il envoie sa démission le 1er août 1777 à l'archevêque Colloredo, qui, au lieu de l'accepter, le renvoie purement et simplement de son poste. Cela mettra Mozart dans une situation délicate financièrement. Il se mettra en quête d'une nouvelle situation, non sans mal, pendant quelques mois. Il fait de belles rencontres à cette époque, malgré ses démarches pour obtenir un poste qui reste infructueuse. Après avoir fait le tour des cours allemandes, c'est à Mannheim qu'il tombe amoureux de la cantatrice Aloïsa Weber, ce qui suscite bien entendu la colère de son père qui lui demande de ne pas oublier sa carrière. Il est couvert de dettes et se rend à Paris avec son père pour tenter de trouver un poste au mois de mars 1778. C'est lors de ce séjour à Paris que sa mère Anna Maria tombe malade et meurt le 3 juillet 1778. Au début de l'année d'après, il rentre à Salzbourg sur les instances très vives de son père qui convainc le prince archevêque de le reprendre à son service. C'est pas vraiment la période la plus faste de Mozart, qui malgré tout aura quand même une production certes plus rare, mais plus condensée avec la messe du couronnement, 3 symphonies, et également la symphonie concertante pour violon et alto. Mozart rejoint le prince archevêque à la cour du nouvel empereur Joseph II. Il y est alors traité comme un laquais, ce qui lui déplaît fortement, et c'est à ce moment-là qu'il décide de s'installer à Vienne définitivement comme compositeur indépendant. Donc c'est à ce moment-là qu'il gagne énormément en liberté puisqu'il n'a plus l'autorité de son ancien employeur, mais il est également libéré de la tutelle de son père. En 1782, l'empereur Joseph II commande un opéra à Mozart. Ce sera l'enlèvement au sérail en langue allemande. Entre-temps, Mozart a fait la connaissance de la troisième fille de Madame Weber, Constance, qu'il décide d'épouser sans attendre le consentement écrit de son père. Il l'épousera le 4 août 1782 à la cathédrale Saint-Étienne à Vienne. Mozart entre le 14 décembre 1784 à la franc-maçonnerie, dans la loge de la Bienfaisance, et accède au grade de maître le 13 janvier 1785. Très épris par ses idées des Lumières et par la franc-maçonnerie, il écrira une douzaine d'œuvres pour ses frères maçons, dont La Flûte Enchantée, qui est considérée comme un opéra maçonnique, qui serait une transcription de l'initiation à la franc-maçonnerie avec ses épreuves, son maître de cérémonie, la répétition de thèmes avec trois notes et une musique évoquant l'idéal maçonnique. En 1786, il fait la connaissance du librettiste Lorenzo da Ponte, qui est le poète impérial à Vienne. Ils écrivent ensemble un opéra basé sur le mariage de Figaro de Beaumarchais, qui s'appellera Les Noces de Figaro. La première aura lieu le 1er mai 1786 à Vienne. Elle aura beaucoup de succès, mais malgré cela, le retrait de l'affiche sera rapide à cause d'une censure de l'empereur Joseph II. Il part alors à Prague monter les Noces de Figaro, qui sont un véritable succès, même un immense succès à Prague. Et en hommage à cette ville, il composera la symphonie numéro 38 en ré majeur. C'est à Prague également qu'il aura une nouvelle commande d'opéra, ce sera Don Giovanni. Fin de l'année 1787, l'empereur Joseph II le nomme musicien de la chambre impériale et royale avec un traitement confortable de 800 florins par an. Vers la fin de sa vie, Léopold II prend le pouvoir et n'apprécie pas du tout Mozart, qui perd sa situation. À cela s'ajoutent de nombreuses dettes contractées au jeu. Malgré cette situation délicate, il compose beaucoup, des sonates, des concertos, des symphonies, un opéra dont le fameux Così fan tutte, qui sera d'ailleurs sa dernière collaboration avec Lorenzo da Ponte. Bien que Léopold II ne soit pas favorable aux francs-maçons, en 1791, il rencontre Emmanuel Schikaneder, qui est d'une autre loge et qui est le directeur d'un petit théâtre populaire de la banlieue de Vienne, qui sollicite donc la participation à un opéra populaire en allemand. Il en écrit le livret et Mozart écrit la musique, et ce sera donc son avant-dernier opéra, Die Zauberflaut, la flûte enchantée. Et ce sera un triomphe. En juillet de cette même année, un inconnu lui aurait commandé le Requiem, qui devait rester anonyme. On sait aujourd'hui qu'il était commandité par le comte Franz von Walsegg. Mozart est à cette époque affaibli par la maladie et les privations. Il a une énorme charge de travail. Il a reçu la commande d'un opéra, la Clémence de Titus, qu'il doit composer pour le couronnement de Léopold II. L'opéra est très mal accueilli par l'impératrice. Mozart meurt le 5 décembre 1791, 5 minutes avant 1h du matin, à l'âge de 35 ans. Et sans avoir pu achever ce requiem. Ce requiem sera achevé à la demande de sa femme Constance par trois de ses élèves, Franz Xavier Süssmayer, Joseph Ebler, Fred Stadler et probablement l'abbé Stadler, d'après Robbins London. Les raisons de sa mort sont totalement inconnues, il était alors fiévreux, le corps gonflé et alité. Malgré son immense génie, il est inhumé le 6 décembre 1791 dans la fosse commune du cimetière Saint-Marx, dans la banlieue de Vienne. Malgré son génie précoce et un succès enfant, il aura eu beaucoup de mal à faire apprécier sa musique dans les différentes cours. Malgré cela, son succès ne sera jamais démenti et son nom sera passé dans le langage courant comme synonyme de génie et de virtuosité. Il est un compositeur incomparable. Il nous laisse 893 œuvres répertoriées dans le catalogue Köchel. Il était un virtuose au violon comme au piano. Et il aura écrit dans tous les genres musicaux de son époque et aura excellé dans chacun d'eux, que ce soit le concerto, la symphonie, la sonate et bien évidemment l'opéra où il aura été un des plus grands maîtres. Je vais terminer ce portrait, comme à mon habitude, par une citation du compositeur. « Le vrai génie sans cœur est un non-sens, car ni intelligence élevée, ni imagination, ni toutes deux ensemble ne font le génie. Amour, amour. Amour, voilà l'âme du génie. »